Le temps des chouquettes, votre rodéo littéraire, une émission présentée par Lucas Beria, un mardi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
Chère chouquette du monde entier, entre deux sœurs, l'amour est-il une impasse sans autres issues que la guerre? C'est la question provocante posée par Elisabeth Barillet dans son dernier ouvrage « Les sœurs et autres espèces du vivant » paru en août dernier aux éditions Arléa. Un livre savoureux qui entrelace habilement le destin de trois femmes pour mieux interroger les liens conflictuels entre sœurs. La narratrice, une écrivaine habitant Paris, s'y lance au hasard d'une trouvaille bibliographique dans des recherches sur la peintre naturaliste du XVIIIe siècle, Madeleine Françoise Basseporte. Face à elle, Lucie, la sœur, qui annonce brusquement son départ de France et l'abandon de tout par un message laconique sur WhatsApp, son point de chute, Dubaï et ses frasques. Une fuite inexpliquée qui lance un récit alternant entre fiction et réalité, jeu de pistes à partir d'objets trouvés et galeries de personnages aussi surprenants qu'attachants. De l'amour à la guerre, de la jalousie à l'admiration, de la rancœur à la bonté, de la complicité à l'adversité, Elisabeth Barillet n'élude rien des sentiments contradictoires qui jalonnent le lien sororal. L'occasion de revenir avec elle sur ce sujet des plus intimes, mais aussi sur le métier d'écrire, autre thème majeur qui jalonne ses pages. Ne prenez que vos oreilles, c'est le temps des chouquettes. Bonjour Elisabeth Barillet.
Bonjour Lucas.
Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Alors avant toute chose, on doit confesser une chose à nos auditeurs du jour, c'est que ce n'est pas la première fois que vous êtes invité à l'antenne du Temps des Chouquettes, puisque nous avons déjà enregistré une émission ensemble, c'était il y a quelques jours à peine, mais un problème technique avait rendu la diffusion de l'émission absolument impossible, une émission fantôme, donc certes passionnante, mais que ni vous ni moi n'avons pu réécouter, donc vous avez accepté de revenir pour vous replier à l'exercice.
Bah oui, en plus que j'aime beaucoup les fantômes, il y en a pas mal dans le livre, donc ça tombe bien.
C'est vrai. On va en parler. Alors, une fois n'est pas coutume, comme on a l'habitude de le faire ici, je voulais commencer par vous suggérer de vous partager un premier souvenir d'écriture marquant pour débuter l'entretien.
Oui, premier souvenir d'écriture, j'en ai deux. C'est la première phrase déjà de mon premier livre qui s'appelait Corps de jeune fille, un roman. Et je me la vois écrire. D'abord, je l'ai toujours en tête. Farouche, moi. Point d'interrogation, c'est une phrase courte, une question. Mais j'en avais beaucoup à l'époque, j'en ai toujours autant d'ailleurs. Je pense que ce sont les questions qui font écrire et pas les réponses. Donc ça, je me revois vraiment en train d'écrire cette phrase qui sort d'un jet. Je suis dans la maison de mes parents, dans ma petite chambre de jeune fille qui a toujours été voilà. Et ça, c'est très 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 vif. Et c'est amusant de se dire que on vit des moments où on n'a pas la conscience quand on les vit que on va s'en souvenir toute notre vie. Et ça, c'est assez beau. C'est comme dans les rencontres amoureuses. Enfin bon, voilà, on vit des grandes choses. Et puis bon, après. Donc ça, c'est un premier souvenir d'écriture. Et puis le deuxième, c'est quand je reçois, toujours lié au premier roman, quand je reçois mon contrat de chez Gallimard. C'était pas n'importe quoi à l'époque, cette maison Gallimard. Et je suis toute seule, je suis assise par terre et je téléphone à mes parents, personne au téléphone, je téléphone à des amis, personne au téléphone, enfin bref. Donc je me trouve toute seule avec... c'est plus qu'une joie, je suis complètement débordée. Enfin, moi j'ai fait Cagnes, Hippocagne, je me suis bercée dans les grands écrivains. Gallimard, c'est l'Olympe. Enfin, et là je me dis, je rentre dans ce temple, mais j'ai personne avec qui partager ma joie. Donc voilà, ça c'est deux souvenirs très 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 vifs.
Et alors justement, ce livre, il est publié en 86, vous avez 23 ans à l'époque. Du coup, il y a deux choses. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire à ce moment-là? Et surtout, quand vous commencez à écrire ce livre-là, est-ce que vous avez déjà en tête de le faire publier ou non?
Alors, qu'est-ce qui me pousse à écrire? Déjà, j'ai écrit depuis que je sais écrire. Hein. Ça, c'était toujours... Dans ma famille, il n'y a aucun écrivain. Mais quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'était je veux être écrivain. Je voulais être écrivain, exploratrice, ne pas me marier, ne pas avoir d'enfants, avoir une vie trépidante... j'ai rempli pas mal de cases. J'ai le sentiment, voilà. C'est d'ailleurs, je pense souvent à l'adolescente que j'étais qui disait ça d'une façon un petit peu scandaleuse et provocante. Mais voilà. Donc Donc, adresse aux auditeurs, ayez des rêves provocants et tenez-vous-y parce qu'il se peut qu'ils puissent se réaliser. Donc ça, c'est une chose. Après publication, non. J'avais pas vraiment le... Mais il se trouve que je pars dans le Nord, j'ai fait une école de journaliste, j'ai un premier poste de remplacement dans le Nord, j'ai 23 ans en effet, je me retrouve dans une petite ville du Nord, c'est près de Valenciennes. Une vieille dame m'a sloué son appartement, je dois m'occuper de ses chats, enfin c'est l'horreur. Et je me dis, bon bah là, j'ai rien d'autre à faire que de me mettre à écrire, quoi. Et je commence des textes, un petit peu des poèmes en prose, un peu à la Baudelaire, sur ce qui me travaille à l'époque, sur le sexe, sur l'amour, sur le rapport à l'autre, voilà, sans l'idée de faire un roman. Et puis ensuite, le hasard fait que je rencontre un écrivain aujourd'hui décédé, qui est Philippe Solers, et il me dit, mais je veux lire ce que vous faites. Il a toujours été très, très à l'écoute des jeunes écrivains. Je lui dis, et encore un autre souvenir très vif du passé, c'est que voilà, on est dans un café, il prend les feuilles, il regarde, et puis il me regarde comme ça, il me dit vous m'épatez. Et alors là, je suis tellement sous le choc que il pleuvait, je prends mon parapluie, je sors. Là, ça pourrait être un film un peu des années 50 en noir et blanc. Je suis sous la pluie, boulevard Montparnasse. J'ouvre même pas mon parapluie et je dis voilà, je vais être écrivain. Donc en fait, tout démarre d'une façon assez fiévreuse. Et après, tout l'enjeu, c'est de donc ça va faire près de 40 ans que j'écris. Tout l'enjeu, c'est de garder cette fièvre, garder cet enthousiasme,
et garder cette foi.
Bah, on fait en ne se comparant pas aux autres. On fait en essayant de rester dans son sillon, c'est-à-dire en n'écoutant pas les sirènes de la mode, si je puis dire, ce qui n'est pas du tout évident. Se comparer aux autres, ce n'est pas du tout évident. C'est vraiment c'est des exercices, on ne va pas dire spirituels, mais enfin, c'est des vrais exercices, quoi. Voilà, il faut garder ça. Et je me dis, alors je me dis plus comme avant, quand j'avais 20 et quelques années, que c'était le plus beau métier du monde, parce qu'il y en a plein d'autres qui me paraissent extraordinaires. Par exemple, aujourd'hui, j'aimerais bien être chirurgienne cardiaque, vous voyez, c'est des choses comme ça. Mais ça reste une belle manière d'habiter le monde et de le questionner et de le renvoyer aux autres.
Il y a une autre activité que vous exercez depuis un certain temps aussi, qui est celle de journaliste. Deux manières de rapport à l'écriture qui sont différentes.
Oui, qui se complètent, évidemment.
Comment vous sentez vis-à-vis, enfin voilà, le fait de faire les deux, est-ce que vous l'envisagez de la même façon? Est-ce qu'il y a des différences vraiment importantes pour vous dans l'approche?
Je le fais, alors jusqu'à à peu près 35 ans, je faisais les deux d'une façon très intense. Je faisais beaucoup de grands reportages, j'ai travaillé pour Géo, pour tout ça, donc ça c'était vraiment... et j'avais l'énergie de faire des livres à côté. Pour moi, c'était très, 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 très séparé. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment, j'ai fait un peu moins de grands reportages et plus d'écriture, j'ai envie de dire littéraire, parce que ça devenait de plus en plus difficile de passer quand même d'un genre à l'autre. Ce qui différencie dans la presse, c'est qu'on a un nombre de signes, c'est 1500 signes, 4000 signes, Géo, c'était je ne sais plus combien, 10 000 signes, 11 000 signes, et donc on est quand même dans un corset, c'est pas du tout pareil, et donc du coup maintenant je fais plus grand reportage, malheureusement, je fais toujours des grands voyages, mais ça, c'est pour mes livres, d'ailleurs j'ai un livre de voyage qui paraît en avril, dans une petite maison d'édition qui s'appelle les éditions des Instants, qui est formidable. Donc je fais toujours des voyages, mais plus pour la presse du coup. Donc je me concentre plus sur l'écriture.
Alors sur l'écriture, dans votre dernier livre, Les Sœurs et autres espèces du vivant, il y a beaucoup de phrases comme ça qui en parlent de l'écriture. On trouve notamment celle-ci, le plaisir d'écrire advient quand les pistes enfin se rejoignent et fusent, l'auteur n'a qu'à laisser son inconscient agir, à savourer le mystère du texte en train de croître et verdir jusqu'au point final, et vous ajoutez ceci, une vision candide du métier d'écrivain. Qu'est-ce qui constitue pour vous une vision non candide du métier d'écrivain?
La vision non candide, c'est travail, 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 travail. Persévérance, une folle persévérance, c'est vraiment, c'est ça la vision non candide, c'est pas l'inspiration, C'est l'attention au monde. Je reviens quand on me dit ah là là mais t'es incroyable, t'enchaînes les livres sur les livres. C'est vrai que j'écris presque pas sans interruption, mais j'enchaîne les livres sur les livres parce qu'en fait je suis attentive, me semble-t-il, au monde et qu'il y a mille sujets, mille choses à écrire quand on est un peu attentif au monde. Donc ça c'est voilà. Et donc Candide c'est ça, c'est d'être face au monde et aussi de travailler et de pas croire en se disant oui j'attends que ça me vienne, je ne lis pas les autres écrivains parce que ça va me perturber. Non, faut lire, faut c'est du boulot quoi, c'est comme aller à la mine. Moi le matin, tous les matins sauf ce matin, mais ce matin à 7h, ce matin à 7h, je tombe sur un article vachement intéressant d'un type qui s'appelle David Abraham. C'est un pionnier de où il était chaman, enfin bref. Et ça correspond ce qu'il dit à ce que doit dire, enfin ce que pense un prochain personnage, enfin un personnage du prochain roman. Tout de suite, il est 7h du mat, je prends les notes, je me dis « Ah, je suis excitée comme une puce » parce que je me dis « Ouais, ça va être formidable, ça va vraiment nourrir mon personnage. » Donc en fait, on est branché 24 heures sur 24.
Bon, après, votre venue ici ne vous a pas empêché d'attraper cette idée ce matin?
Non, parce que justement, je me suis dit, il faut que je le fasse. Après, je vais aller à la radio. Après, je vais faire des courses. Et après, chouette, cet après-midi. Waouh, je vais m'y remettre là. Ouais, ça va être chouette.
Alors, on va partir pour une brève pause musicale, Elisabeth Barrier, avec un morceau que vous m'avez vous-même suggéré et qui restitue le rythme vif, vivant et nerveux que vous cherchez à donner votre écriture. C'est le morceau No Moon At All qui est chanté ici par Anita O'Day et qui a été diffusé pour la première fois en 1955. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot avant qu'on le...
Oui, c'est justement cette joie, cette allégresse et une sorte de jazzy. Et c'est ça que j'aime bien, qu'il y ait quelque chose de très vif qui passe dans mon écriture, qu'on tourne les pages, pas parce que l'histoire est tellement passionnante, mais parce qu'il y a un rythme d'écriture qui fait qu'on est emporté.
On écoute ça alors.
No moon at all, what a night. Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear that tonight is right and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. For inspiration, dear, one kiss will make it clear that bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. There is no moon at all.
Le temps des chouquettes. Une émission présentée par Lucas Beria.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM, toujours dans le temps des chouquettes, en compagnie d'Elisabeth Barrier pour son dernier livre, Les sœurs et autres espèces du vivant, aux éditions Arléa. Ce livre, Elisabeth Barrier, on l'a dit, il mêle à la fois fiction et réalité, fidèle au mentir vrai, cher à Aragon. Sa construction, elle alterne entre l'enquête de la narratrice sur Madeleine Françoise Basse-Porte et les rencontres que la narratrice fait au fil du récit. Des rencontres qui mènent à des réminiscences de ses souvenirs partagés avec Lucie, la sœur, mais aussi des souvenirs familiaux. Et vous naviguez ainsi inlassablement entre le passé et le présent. C'est une narration qui vous permet d'explorer la complexité des liens entre sœurs, sans vous cantonner à la stricte autofiction et au récit de soi. Cette construction-là, avec plusieurs personnages, plusieurs temporalités, comment elle vous est venue au fil de l'écriture?
Elle m'est venue, j'ai l'impression que j'ai un cerveau qui fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire que là, beaucoup de romans sont... j'ai pas un cerveau simple, et parfois ça m'énerve, parce que je me dis, mais sois simple, et je suis incapable, alors quand je lis avec admiration... des livres de mes contemporains hein, j'admire parce que je me dis, alors vous parliez d'autofiction, je peux aimer beaucoup l'autofiction, c'est pas mon climat, je puis dire, mais il se trouve que voilà, j'ai d'esprit d'escalier, je vis beaucoup aussi dans mes souvenirs mais aussi dans l'instantané, je suis stimulée tout le temps par ce qui se passe et par ce qui se passe en moi. Donc, les livres. En fait, les livres prennent la forme des cerveaux de ceux qui les écrivent. Enfin, dans le meilleur des cas, évidemment, quand on parle de gens qui essaient de. Voilà. Mais donc, j'ai pas vraiment d'explication. La seule chose, c'est que ça me demande beaucoup, beaucoup de temps. Là, ce livre qui n'est pas très épais, j'ai quand même mis plus de 3 ans en écrivant quand même tous les jours et en faisant 5 versions. Bref, mais c'est comme ça, hein, je veux dire, je pense qu'il faut accepter un moment qu'on a une forme qui peut être à chaque fois différente, mais enfin qu'il y a une manière de concevoir les livres qui est la nôtre, hein, esprit d'escalier. Je pensais ce matin à Nabokov, et Nabokov dont j'aime beaucoup les romans. Éblouissant. Lui, il décrivait comme patchwork, c'est-à-dire qu'il faisait des scènes et puis après il les mettait de côté. Enfin voilà, c'est comme un jeu de construction qu'il faisait. Il se trouve que c'est peut-être que son cerveau fonctionnait comme ça aussi, vous voyez.
Est-ce que c'est une manière aussi, puisque vous traitez de choses très intimes dans vos différents livres, est-ce que c'est une manière aussi de mettre à distance, en tout cas pour votre entourage, les personnes les plus proches de vous, comme voilà, ça peut être des violents pour les personnes en question de se retrouver vraiment nommément dans des livres écrits par d'autres. Est-ce que c'est aussi pour vous protéger de certaines choses?
Surtout pour les protéger. Ouais. Personne n'aime se retrouver dans un livre. Personne. Bon, il se trouve que moi, je change les noms, je change les prénoms, j'essaie de c'est pas du tout de ce point de vue-là de l'autofiction. Et on peut dire que oui, je pratique une forme d'autocensure. Il y a des thèmes que je n'aborderai pas sur le plan de l'intime. Je peux faire que mes personnages vont faire l'amour, par exemple. Là, je suis en train d'écrire un prochain roman où il y a une femme, une poétesse qui a 90 ans, enfin qui est très très vieille. J'imagine que à travers un journal intime, sa vie amoureuse quand elle avait 70 ans, mais c'est un personnage. Donc c'est complètement romanesque là. Si c'est vraiment, comme dans celui-ci, une exploration quand même d'une enfance réelle, je construis avec beaucoup d'attention. Ce qui n'empêche que ma sœur qui a lu le livre, évidemment, a trouvé que c'était absolument très loin de la réalité. Mais ça, c'est je pense que c'est normal.
Alors cette sœur, justement, en tout cas dans le roman, elle s'appelle Lucie. C'est une sœur que tout semble opposé à la narratrice, tant dans ses choix de vie que dans son caractère. Mais on a au fil du récit des souvenirs d'instants partagés qui laissent apparaître une relation qui est évidemment plus complexe et ambivalente. Et la vie de Lucie, elle est comme un miroir qui est tendu à la narratrice, qui la questionne sur ses propres choix de vie, ses propres empêchements, ses préjugés. Cette Lucie, qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, pour la narratrice du roman?
Je vous le dis très bien, c'est vraiment le miroir dans lequel, en effet, et merci de le lire comme ça, en effet, la narratrice voit ses préjugés. C'est vrai que moi, j'ai une sœur qui est très proche de Lucie, qui n'a pas du tout mon mode de vie, ni mes goûts, ni ma manière d'être, ni ma manière de m'habiller. Mais au début, je le prenais peut-être un peu de haut. Et puis aujourd'hui, je m'aperçois que chacun est libre de vivre comme il l'entend Et l'écrivain que je suis, je dis à un moment plusieurs fois dans le récit, ta vie de vieille, tes goûts d'empaillée. Oui, alors je peux être très très impitoyable envers moi-même, et parfois je me dis, ouais, t'as quand même t'as des goûts, tu nages dans le 18e siècle. C'est pour ça, heureusement, que je reste ouverte au monde et que je peux écouter Bertrand Belin et aimer Bertrand Belin, vous voyez ce que je veux dire. Heureusement, parce qu'autrement, ça serait infernal.
Bah, et puis, par rapport à ça, il y a aussi une distance, cette phrase-là, effectivement, qui revient régulièrement dans le récit, tes goûts de vieille, ta vie d'empaillée, que Lucie adresse à la narratrice. Mais c'est aussi une mise en distance, et vous avez, vous, beaucoup d'humour, d'ironie sur la vie d'un écrivain, d'une écrivaine, sur le...
qui n'a aucun intérêt, en fait. En gros, je dis qu'une vie d'écrivain n'a aucun intérêt, parce que c'est 90% du temps qui est sur un fauteuil, en train de s'arracher les cheveux et tout ça. Bon, là, c'est de la provocation, ouais, c'est évident. Mais j'en ai un petit peu assez de voir alors, la dévotion, par exemple, dans des rencontres de lecteurs, la dévotion que certains écrivains, voyageurs en particulier, provoquent. D'une manière générale, les écrivains, on provoque encore une certaine dévotion. Alors, d'une catégorie d'âge qui maintenant, c'est les plus de 50 ans quand même, hein, il faut dire. Hein. Mais ça, j'ai envie de leur dire, mais attendez, moi, j'ai pas du tout une vie plus passionnante que la vôtre. Hein, vraiment. Voilà. Donc, c'est une manière aussi de m'amuser de cela. Hein.
Et cette place-là, la place de l'humour, de l'ironie dans ce que vous écrivez, dans vos différents livres, c'est quelle place vous, enfin,
essentiel. C'est-à-dire que j'aime le décalage, et il me semble que le roman le plus puissant qui soit, ben, par exemple, quand on prend Tolstoï, quand on prend Anna Karénine, la manière dont la première phrase, qui est très célèbre, surtout les familles sont heureux de la même manière, hein, il y a déjà un décalage. Je veux dire, et pourtant, c'est Tolstoï, c'est d'une profondeur folle. Moi, c'est vrai que les romans qui n'ont pas du tout un tout petit peu d'ironie, qui sont profonds et qui sont que profonds et que extraordinaires et que non, moi ça m'ennuie, ça me tombe des mains, voilà, mais ça n'engage que moi, évidemment.
Alors il y a une autre chose, Elisabeth Barrier, pour revenir au personnage de Lucie et au roman, c'est que dans le texte les souvenirs de la narratrice, il laisse aussi entrevoir des instants de complicité,
oui,
entre,
oui,
les deux sœurs. Il y a notamment un chapitre qui raconte le temps que la narratrice et Lucie ont passé ensemble pour la première fois dans un appartement rue Mouffetard.
Oui.
L'une est alors étudiante, l'autre tout juste majeure, et c'est une partie de leur vie qui est extrêmement insouciante, qui est faite de sorties, de rencontres. Ouais. Et pourtant, en vous lisant, on comprend aussi que la complicité, elle n'est jamais véritablement possible, qu'il y a toujours une impasse, une incompréhension de l'autre, et vous écrivez ceci. Deux sœurs aussi rapprochées dans l'ordre des naissances ne peuvent que tout partager, tout se dire. Ce n'est pas vrai. S'il existe une femme avec laquelle je ne fus jamais intime, c'est bien Lucie. Est-ce que c'est cette impossibilité-là que vous vouliez à tout prix saisir dans le roman ?
En tout cas, oui, c'est aussi... là, quand je parle de... C'est vraiment l'intimité sexuelle, hein, en l'occurrence ici. C'est-à-dire qu'en effet, on a partagé 3 ans, on a vécu pendant 3 ans ensemble, près de la rue Mouffetard. C'était génial. Mais sur notre vie intime... et sexuel, on ne se disait rien. Il y avait une espèce de tabou. Alors, pourtant, on avait une même chambre, donc on s'arrangeait pour que l'une soit pas là, que l'autre. Enfin, c'était tout un truc d'arrangement, mais on ne se racontait rien. Alors, je ne veux pas dire que c'est comme ça de la plupart des sœurs. Alors, il faut dire que moi, je n'avais qu'une sœur, donc l'intimité la plus grande peut-être créer une forme de distance, je dirais, saine, une salutaire distance. Tout se dire, tout se raconter, tout se... Moi, je trouve que ça peut être assez malsain, même dans un couple, hein, en l'occurrence. Voilà, donc en effet, dans ce livre, Lucie et la narratrice ont leur zone, ont leur chambre secrète, si je puis dire. Et je pense qu'il faut... Tout le monde doit en avoir au moins une.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure vous avez dit que le livre était rempli de fantômes. Vous le dites explicitement à un moment dans l'enquête de la narratrice, pardon, puisque l'enquête sur Basse-Porte, c'est aussi une manière pour elle de compenser le départ soudain de sa sœur. Et donc, plus loin dans le récit, il y a cette phrase : étais-je désespéré au point d'exiger d'un fantôme qu'il me console d'avoir perdu ma sœur ? Cette notion-là du fantôme, elle est omniprésente dans ce que vous écrivez.
Oui, bah, d'une manière des disparus, du passé, oui, bien sûr. Bah, je pense que l'horloge, ce n'est pas propre à moi. Je pense qu'on vit tous avec nos... Ah, évidemment, plus on avance dans la vie, bah, plus on en a de fantômes. Hein. Ça, c'est clair, c'est évident. Et que peut-être, je me dis, bon, quand je me vois vivre très, très vieille, mais c'est un fantasme, évidemment, mais je me dis peut-être quand j'aurai très, très vieille et puis que tous mes amis, mes proches seront à l'état de fantôme, je n'aurai qu'une envie, c'est de redevenir un fantôme, de devenir un fantôme moi-même, vous voyez. Donc, non, on vit constamment avec... enfin, moi, je vis avec... Et puis, en plus, de vivre à Paris, c'est quand même une ville surpeuplée de fantômes, hein, en l'occurrence.
Alors, on peut se quitter, se laisser sur ces fantômes, en suspens, si ça vous va.
Pourquoi pas, en précisant qu'il faut les écouter et qu'il y en a qui sont très 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 joyeux. Mes fesses plates, mon ascétisme, ma frigidité émotionnelle, mon insupportable esprit de sérieux. La salve de reproches, toujours les mêmes. Comme tu te contrôles, c'est fou, c'est malsain. Je t'assure, et le plaisir, qu'en fais-tu ? Mon plaisir ? Ce serait qu'on s'entende, comme deux amis, deux complices. Mon plaisir, ce serait qu'elle accueille qui je suis. C'est peut-être ce qu'elle espère aussi. Que je la prenne comme elle est, sans restriction. Juger l'autre, à l'aune de soi-même, il n'y a rien de plus stérile, au fond. C'est ce que je fais en sa présence. Cela m'abat qu'elle soit différente. Cela m'épuise. Lucie, lèvres pulpeuses, poitrine ferme, verbe haut, nimbée d'une autorité brutale, irrésistible, et moi, face à elle, retenue, corsetée, affrontant ce déchaînement pulsionnel qu'elle m'oppose comme une nouvelle provocation de sa part, jouissant d'être, à cet instant, son contraire. Entre deux sœurs, l'amour est-il une impasse, sans autre issue que la guerre ?
Merci beaucoup, Elisabeth Barillet, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc votre livre « Les sœurs et autres espèces du vivant » qui est paru aux éditions Arléa dans la collection La Rencontre. On peut le trouver en librairie évidemment. Et je tiens également à remercier Théo Potier pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission. Quant à vous, chers chouquettes du monde entier, à bientôt pour de nouvelles réjouissances littéraires sur Radio Campus Paris. Et d'ici là, belle lecture.